en dépend. Alors, moi, je vais vous parler évidemment de quelque chose qui est un petit peu en dehors de vos sujets de préoccupation habituels, si j'ai bien compris, puisque je vais vous parler du risque climatique. Alors, cela dit, j'étais un petit peu inquiet, mais j'ai retrouvé dans l'exposé qui vient de nous être fait des problématiques qui sont des problématiques qui me sont tout à fait familières. Et donc, après tout, peut-être que ce que je vais vous raconter ne va pas vous paraître aussi saugrenu que je ne le craignais au départ. Alors, ce dont je vais vous parler, alors, tout d'abord, tout à l'heure, M. Boer vous a dit que le crime nouveau n'avait pas remplacé le crime ancien. Eh bien, de la même façon, les risques climatiques nouveaux ne changent rien aux phénomènes qui ont depuis longtemps rythmé le climat de la Terre, en particulier à cause des variations des paramètres de l'orbite de la Terre en fonction des lois de la mécanique céleste et des perturbations imposées par les différents astres. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'écliptique, l'ellipticité de l'orbite que décrit la Terre autour du Soleil, qui est plus ou moins aplatie, au contraire plus ou moins ronde, le fait que périgée est le moment où on est le plus près du Soleil, puisse se produire de temps en temps en décembre et de temps en temps en janvier, tout ça a entraîné des cycles climatiques qui ont existé depuis longtemps et qui continueront à exister. On a pu les analyser. Comme c'est des problèmes de mécanique céleste, on peut même modéliser ce qui va se passer et on sait que le prochain glaciation, c'est pour dans 20 000 ans, quelque chose comme ça. C'est en tout cas pas pour demain matin. Les problèmes dont je vais vous parler sont des problèmes de risque climatique qui sont à l'échelle d'un petit nombre de décennies. Alors, de quoi s'agit-il ? D'abord, un tout petit peu de rappel de physique. Qu'est-ce qui fixe la température d'une planète ? Ce qui fixe la température d'une planète, c'est un équilibre énergétique. Une planète, c'est un corps isolé dans l'espace. Et la Terre ne touche à rien. Elle n'échange donc de l'énergie avec le milieu extérieur que par le rayonnement. Alors, tout d'abord, la Terre, elle est évidemment soumise au rayonnement du Soleil. Il y a une partie de ce rayonnement qu'elle renvoie dans l'espace, c'est ce qu'on appelle l'albédo, et puis il y a une partie de l'énergie qu'elle absorbe. Alors donc, sa température a tendance à augmenter jusqu'à ce qu'elle prenne elle-même une température telle qu'elle réussisse à évacuer dans l'espace une quantité d'énergie égale à celle qu'elle récupère venant du Soleil. Alors la Terre, elle a la température qu'on connaît tous, donc elle n'est pas à 6000 degrés comme le Soleil, donc elle n'est pas brillante comme le Soleil, mais elle rayonne quand même, simplement elle rayonne dans une gamme de longueurs d'onde que nous ne voyons pas, qu'on appelle l'infrarouge, qui correspond à des photons d'énergie beaucoup plus faibles que ceux de la lumière visible, mais qui néanmoins existent parfaitement. Lorsque vous faites cuire un beefsteak sur un barbecue, même si les charbons sont plus rouges, ni même blancs, ni même rouges, même s'ils sont noirs et s'ils restent suffisamment chauds, ça vous fait parfaitement cuire votre viande. Il n'y a pas de raison que ce n'est pas parce que l'œil ne les voit pas que ces rayonnements n'existent pas. Alors si maintenant on introduit dans l'atmosphère de la Terre des gaz qui absorbent ce rayonnement infrarouge, ce rayonnement infrarouge qui précédemment s'en allait dans l'espace, d'un seul coup se met à être retenu par l'atmosphère de la planète et donc il y a momentanément un manque à rayonner, il y a un déséquilibre, la Terre reçoit plus d'énergie qu'elle n'en émet et sa température a tendance à monter jusqu'à ce qu'on atteigne un nouvel état d'équilibre. Or, nous changeons en permanence depuis que nous avons entrepris d'utiliser les combustibles fossiles pour produire de l'énergie. Nous libérons en permanence dans l'atmosphère, en particulier du gaz carbonique, et nous libérons également aussi du méthane, du protoxyde d'azote. Et c'est ce qui est sur la première diapositive qui est là. Vous voyez l'échelle du bas, on remonte 10 000 ans en arrière, les grands panneaux. Vous avez un petit éclaté qui vous donne à l'intérieur de chaque courbe comment ça a évolué de 1800 à 2000. Et vous voyez donc qu'à l'échelle de 10 000 ans, on a une brutale augmentation de l'ensemble de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère de la Terre. Les petits cartouches intérieures montrent de façon plus fine comment ça s'est passé au cours des 200 dernières années, et on voit en particulier qu'on est passé de 280 particules par million de CO2, pour ne prendre que le schéma du haut, et le CO2, le gaz carbonique, étant le principal des gaz à effet de serre, à la fois par l'amplitude du réchauffement qu'il provoque et par la durée de vie dans l'atmosphère. Et vous voyez qu'on est passé donc de 280 particules par million à 380 particules par million. Alors qu'est-ce que veut dire des particules par million? Ça veut dire que si je prends un million de molécules d'air, eh bien dedans je trouve 280 molécules de CO2, ou maintenant 380. Bien, alors maintenant, ceci doit donc provoquer effectivement une augmentation de la température, et vous avez en bas à gauche un schéma qui vous donne la courbe noire, c'est l'augmentation de la température moyenne mondiale. La courbe immédiatement à droite, c'est les terres, l'augmentation globale de la température des terres, et puis la courbe droite, c'est l'augmentation globale de l'océan, et puis pour chacun des continents, vous avez également l'augmentation de température moyenne qui a été observée. Et puis, alors on dispose d'un certain nombre de modèles qui permettent de modéliser la circulation de l'atmosphère, la circulation de l'océan, tenant compte de ces apports d'énergie extérieure. Alors si on tient compte des apports d'énergie extérieure, on a des modèles qui nous donne les courbes rouges. Si on supposait qu'on n'avait pas cet apport supplémentaire dû à l'effet de serre, dû au fait qu'on a des gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire au passage qu'on appelle ça l'effet de serre parce que ce phénomène se produit dans les serres de jardiniers, c'est-à-dire que les serres de jardiniers laissent passer le rayonnement solaire et par contre bloquent le rayonnement infrarouge qui s'en va vers l'extérieur. Ceci ne suffit pas à expliquer tout le fonctionnement des serres de jardiniers, mais ce phénomène est présent dans le fonctionnement des serres de jardiniers, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet de serre. Alors vous voyez donc qu'à condition de prendre en compte cet effet de serre, bien on arrive à reproduire à peu près correctement ce qui se passe à l'échelle globale et à l'échelle de chacun des continents, alors que si on ne prenait pas en compte cet effet de serre, eh bien les courbes bleues sont quand même complètement en dehors de la plaque par rapport aux courbes rouges. Alors ce qui est le plus intéressant, le plus inquiétant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors on a effectivement observé une augmentation qui est présenté ici. De façon plus concrète, si on prend par exemple les 12 années les plus chaudes qu'on ait jamais observées depuis qu'en gros 1850, qu'on dispose d'observations, et bien parmi ces 12 années les plus chaudes, il y en a 11 qui sont dans les 12 dernières années. Donc ça vous montre bien qu'il y a effectivement un réchauffement qui est un réchauffement tout à fait observé, tout à fait certain. Je n'ai pas le temps d'insister sur le phénomène parce que je voudrais qu'on discute un peu d'autre chose que du phénomène lui-même. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, à quoi devons-nous nous attendre. Parce que ce phénomène, il est vraisemblable qu'il va ne faire que croître et amplifier. En effet, l'énergie que nous utilisons provient à 80% de la combustion des combustibles fossiles, c'est-à-dire du pétrole, du gaz et du charbon. Et ce que vous voyez dans les deux zones bleues, c'est ce qu'on a effectivement observé. Et si on se tourne vers les prospectivistes, qui peuvent faire un certain nombre d'hypothèses sur la croissance de la population, sur la vitesse de développement des différents continents, sur le mode de production énergétique, sur les échanges économiques, les échanges énergétiques, etc. Il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on peut faire, et l'ensemble des courbes que vous avez là, c'est l'ensemble des scénarios du possible. C'est-à-dire que les économistes vous disent, si on ne fait rien, voilà en gros ce que va devenir la concentration de l'atmosphère au cours des années. Alors vous voyez, on en est au jour d'aujourd'hui à 380, comme je vous le disais. Dans le cas le pire, on pourrait avoir 1000, c'est-à-dire largement plus qu'un triplement. Dans le cas le meilleur, ben, on a 550, ce qui est déjà un doublement par rapport à ce qu'était la concentration avant l'ère industrielle. Alors à partir de ça, on peut essayer, pour chacun de ces scénarios-là, essayer d'évaluer quelle va être l'évolution de la température au cours du siècle qui nous attend. Et c'est ce qui est montré sur la courbe qui est là. Alors on n'a pas reproduit sur les courbes elles-mêmes, la partie gauche de la figure, l'ensemble des scénarios. On en a pris trois, représentatifs, si vous voulez. Et on voit comment ces trois évoluent. Par contre, sur la partie droite, on a repris l'ensemble des scénarios qui figuraient sur la figure précédente. La petite barre horizontale du milieu, c'est la petite barre qui représente la valeur moyenne de ce que donnent les modèles. Et puis, la longueur de la barre, ça représente une valeur qui est une valeur possible, parce que les modèles ne sont pas infiniment précis. Il y a des tas de phénomènes de petite échelle, comme en particulier le comportement de la vapeur d'eau, qui n'est pas possible de modéliser de façon extrêmement fine, et par conséquent, il y a un certain nombre d'erreurs. Donc vous voyez que si on cumule les erreurs qui sont dues au fait qu'on ne sait pas quelles sont les émissions d'humanité, et d'autre part, le fait qu'on peut être en bas de la barre ou en haut. Donc, si on prend ici, pardon, non, je monte sur mon dessin, mais ça, c'est pas. Voilà. Si on prend le bas de cette barre ici et qu'on prend au contraire le haut de celle-ci, eh bien, vous voyez que l'augmentation de température, elle sera située quelque part entre 1 degré et 6 degrés. Donc on est, les scientifiques ne peuvent pas dire mieux que ça, mais on sait bien que plus on émettra de gaz à effet de serre, et plus on sera sur une des barres de droite, et par conséquent, plus on aura un risque d'avoir un bouleversement climatique. Alors ce bouleversement climatique, je n'ai pas le temps de vous en décrire les différentes conséquences possibles et imaginables, mais ce qui est probablement le plus important, du point de vue qui vous préoccupe ici, c'est que c'est vraisemblablement des risques géopolitiques qui sont derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui sont des pays déjà défavorisés, qui auront bien du mal à s'adapter à un changement climatique brutal, et pour faire simple, disons que dans le passé, quand il y a eu des changements climatiques, nos ancêtres, ils ont bougé, ils se sont déplacés. Oui, mais à l'époque, ils n'étaient pas très nombreux sur la planète. Maintenant, imaginez simplement que les gens d'Afrique du Nord, auxquels on prédit une sécheresse beaucoup plus grande que celle qu'ils connaissent maintenant, aient envie de s'orienter vers des pays un peu plus propices. On voit bien dans quelle direction ils vont aller. Et je n'ai pas besoin de commenter davantage. S'il y en a ou deux, ce n'est pas très grave. S'ils sont très nombreux à arriver, incontestablement, ça nous causera un certain nombre de problèmes. Alors, pour en terminer rapidement avec la présentation du phénomène lui-même, je voudrais rapidement vous parler du problème de l'énergie, parce que finalement, le problème que nous avons, c'est un problème de notre rapport à l'énergie. Il est sûr que le développement industriel de l'humanité que nous connaissons, c'est nécessairement une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, en ce sens qu'en un petit nombre de siècles, on va dépenser les ressources d'un sous-sol qui a été créé en des centaines de millions d'années. Donc il n'y a absolument aucun doute que de toute façon, on peut discuter, il y a des incertitudes sur tout ça, mais il est certain que de toute façon, les ressources du sous-sol sont intrinsèquement limitées. Alors ici, vous avez, sur la gauche de ma figure, vous avez les réserves, ce qu'on peut s'attendre à avoir, et même les réserves, c'est ce qui est vraiment prouvé, une autre notion qui est la ressource. Enfin bref, disons, la totalité de la colonne, ça vous dit à peu près ce qu'on peut avoir, espérer retrouver dans le sous-sol, comme gigatonnes, c'est-à-dire comme milliards de tonnes de carbone, dans le pétrole, dans le gaz et dans le charbon. La quatrième colonne à partir de la droite vous dit ce qu'on a consommé en superposé en pétrole, en gaz et en charbon depuis le début de l'ère industrielle. Et puis, ce que vous avez dans les colonnes bleues qui sont là, c'est la consommation d'ici à 2100 qui correspondent aux scénarios que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, les scénarios les moins gourmands, évidemment, c'est le scénario B1. Le scénario le plus gourmand, c'est le scénario 1F1. Et puis, à droite, vous avez des scénarios qui correspondent à des scénarios interventionnistes qu'on envisage et qui consisteraient à s'arranger pour que la concentration soit stabilisée à un niveau qui est le niveau qui indique en abscisse. Enfin, je ne vais pas insister sur tout ça. Simplement, à retenir de cette figure, vous voyez bien que, de toute façon, à peu près quoi qu'on fasse, à l'échelle du siècle, on aura bouffé tout le pétrole et tout le gaz, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des crises de ce côté-là, par un manque d'approvisionnement. Par contre, on n'aura jamais réussi à manger tout le charbon, et comme on sait parfaitement, par condition d'y mettre le prix, mais ça ne coûte pas quand même des prix épouvantables, fabriquer du pétrole à partir du charbon, les Allemands l'ont fait pendant la dernière mondiale, les Sud-Africains l'ont fait au moment du blocus, donc il ne faut pas compter sur l'épuisement des combustibles fossiles, qui est de toute façon inévitable, auquel on aura à faire face ici un petit nombre de siècles, mais il ne faut pas compter là-dessus pour limiter l'ampleur du changement climatique. Donc l'humanité, elle est confrontée à un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on fait rien pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique? Et c'est ça le problème, finalement, que je voudrais peut-être un petit peu rediscuter et revenir un petit peu en arrière. Alors, là, c'est évidemment un problème un peu particulier. Le fait que l'atmosphère d'une planète joue un rôle déterminant dans la température à laquelle elle s'équilibre, ça a été démontré par Joseph Fourier en 1820 et quelques, 25-26. Bon. En 1896, il y a Svante Arrhenius, qui était un physicien, un chimiste plutôt suédois, qui a dit, écoutez, on est en train de brûler du charbon qu'on extrait dans le sous-sol. Du train, on est parti, il a fait un petit calcul sur un dos d'enveloppe. On va finir par doubler la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique. Et ceci va correspondre à une augmentation de la température de l'ordre de quelques degrés Kelvin. Alors, oui, quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais qu'il faut que je profite pour rattraper cet oubli de tout à l'heure. Quelques degrés, ça a l'air de peu de choses. Entre ce matin et cet après-midi, il peut y avoir quelques degrés d'écart. Entre la température qu'on avait il y a 2 semaines et la température qu'on a maintenant, on a largement plus de quelques degrés. C'est donc pas, on peut avoir le sentiment que c'est pas très important, mais il faut savoir que entre la température moyenne d'une ère glaciaire et la température optimum et la température d'un optimum moyenne d'un optimum interglaciaire tel que celui que nous vivons, il y a 5 à 6 degrés d'écart. Et vous voyez que pour 6 degrés d'écart, vous avez, si on divise par 6, si on diminue la température de 6 degrés, on a 3 km de glace sur le nord de l'Europe. Hein, c'est donc tout à fait des choses qui sont des choses tout à fait considérables. Donc c'est vraiment des problèmes qui sont des problèmes tout à fait importants. Alors ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est qu'Arrhenius lui-même, qui était suédois et qui souffrait d'hivers qui sont quand même un peu rigoureux, n'a pas vu du tout le problème, que ça posait un problème mondial pour l'ensemble du climat. Il avait même tendance à dire que c'est plutôt bien, on aura moins froid en hiver, donc il voyait pas de problème majeur dans tout ça. Alors, par contre, c'est vers les années 50 que, à cause du développement des moyens d'observation, développement des observations spatiales, du fait qu'on pouvait, par des moyens de télécommunication, rassembler les données, on a commencé à disposer d'ordinateurs qui permettaient de faire des modélisations du comportement de l'atmosphère et du climat, et c'est à partir des années 50 que les scientifiques ont commencé à effectivement étudier sérieusement le sujet. Et puis, ils ont travaillé au cours des années 60, 70, puis vers la fin des années 80, les résultats ont commencé à descendre. Et il y a eu un premier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui avait été fondé conjointement par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies sur l'environnement, qui a commencé à sortir son premier rapport en 1990. Et puis ce rapport a tellement ému les gouvernements qu'il y a eu en 92 à Rio, lors du grand sommet de la Terre qui s'est produit à ce moment-là, une convention qui a été signée par l'ensemble des pays dans lequel ces pays se sont engagés à ne pas à limiter le changement de la composition de l'atmosphère de la Terre à des valeurs qui ne soient pas dangereuses pour le système climatique. Alors, pas dangereuses pour le système climatique, vous voyez bien, là, en langage de diplomate, c'est pas extrêmement précis, et il reste à déterminer ce qu'on appelle pas dangereux, et c'est ça qui fait et continue à faire l'objet de discussions à n'en plus finir. Alors, maintenant, je voudrais vous dire un mot, justement, tout ce que je vous ai présenté là, ce n'est pas des lubies que j'ai inventées moi-même. Il existe un organisme que j'ai déjà mentionné, qui est donc ce groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est à l'échelle internationale un organisme qui est quand même tout à fait original, en ce sens que c'est un organisme qui fait l'état des connaissances sur un sujet donné périodiquement. Alors, quand je vais vous avoir décrit la façon dont il travaille, vous comprendrez qu'il ne sort pas un rapport très fréquemment, il en sort un tous les 5-6 ans. Enfin, il y en a eu un en 90, un autre en 95, un troisième en 2001, et le quatrième rapport, son premier tome est sorti à Paris, ici, il y a eu une réunion à l'UNESCO la dernière semaine de janvier. Il y a, première semaine d'avril, une réunion de la deuxième groupe qui se tiendra à Bruxelles, et un troisième groupe qui se tiendra à Bangkok la première semaine de mai. Le groupe 1, lui, étudie la physique du réchauffement climatique, c'est-à-dire c'est lui qui étudie et essaie de projeter quelles seront les évolutions du climat au cours du siècle à venir, et même plus loin. Le groupe 2, lui, essaie d'étudier quelles seront les conséquences du réchauffement climatique et ce qu'on peut faire pour s'y adapter, puisque de toute façon, un réchauffement climatique, il y aura. Et puis, le troisième groupe, lui, étudie ce qu'on peut faire pour essayer de limiter l'amplitude du réchauffement climatique, ce que ça coûterait de diminuer notre consommation d'énergie ou de produire l'énergie autrement que nous la produisons. Alors, il est tout à fait intéressant de voir comment ces groupes travaillent. C'est un exemple un peu, je crois très franchement unique à l'échelle internationale, dans lequel on a un rapport qui est approuvé par l'ensemble des gouvernements. C'est un groupe intergouvernemental. Et à Paris, le rapport a été approuvé à l'unanimité de tous les pays, y compris les pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite et ceux qui sont plus préoccupés de leur développement que de lutter contre le réchauffement climatique comme la Chine et qui ont traîné des pieds tout au long de la réunion, mais in fine, ils ont accepté de signer le rapport. Et en même temps, ces rapports sont jugés tellement corrects par les scientifiques que quand vous avez un jeune étudiant qui arrive pour faire une thèse, vous lui dites, écoute, tu lis le dernier rapport, comme ça tu seras au courant de ce qu'on sait à l'échelle mondiale sur ce qui se passe sur le sujet. Et bien que ces rapports soient approuvés à l'unanimité des États membres, ce n'est pas de la bouillie pour les chats, il y a réellement des choses qui sont extrêmement claires. D'ailleurs, ces rapports sont publiés sur le site qui s'appelle IPCC, ce qui est le Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, IPCC.ch, vous pouvez vous y reporter et vous aurez le texte complet du troisième rapport d'évaluation, et pour l'instant du quatrième, vous ne trouverez que le sommaire pour décideurs du groupe 1, qui est un résumé. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette espèce d'alchimie un petit peu miraculeuse? Eh bien, tout d'abord, les gouvernements commencent par approuver, là encore à l'unanimité, le plan du rapport. C'est-à-dire qu'on divise le rapport en un certain nombre de chapitres et on dit, voilà, tel chapitre parlera de ça, celui-là de ça, etc. Bon. Enfin, le titre des chapitres lui-même est déjà suffisamment évocateur. Et les différents gouvernements disent, bien moi, je vous propose tel et tel scientifique confirmé pour traiter, faire l'état des connaissances. Bon. Le bureau du groupe choisit finalement les gens qui vont écrire le rapport. Évidemment, en prenant des gens qui sont des gens de première qualité internationale et en respectant un équilibre mondial correct. Ces gens-là écrivent un premier rapport. Ce rapport est diffusé à tous les experts qui ont été désignés par les gouvernements et par les associations, les ONG, les organisations non gouvernementales qui peuvent être Greenpeace ou qui peuvent être la Global Climate Coalition, qui est un fonds des pétroliers américains. Donc avec toutes les sensibilités possibles et imaginables. Ces experts lisent la première version du rapport. Ils font des commentaires. Ces commentaires sont récapitulés, collationnés, ligne à ligne. Donc on sait que sur la page 35 à la ligne 15, il y a 12 commentaires qui sont tac, 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 tac. Et les auteurs doivent répondre aux 12 commentaires, c'est-à-dire en tenir compte, ou s'ils n'en tiennent pas compte, savoir pourquoi ils refusent d'en tenir compte. Bien. Ils rédigent une deuxième version. Cette deuxième version est renvoyée aux experts qui avaient critiqué la première et en même temps à tous les gouvernements qui peuvent consulter tous les experts de leur cercle d'experts habituels. Et à nouveau, on renvoie une série de commentaires qui sont recollationnés ligne à ligne et on écrit une troisième version. Et c'est cette troisième version qui est sur la table de l'assemblée plénière qui doit approuver le rapport mot à mot. Qui plus est, il existe un autre document auquel j'ai déjà fait allusion, qui est le résumé pour décider, le summary for policymakers, qui est un résumé en une vingtaine de pages, 10 pages de texte, 10 pages de figures en gros, des conclusions du rapport. C'est une sorte de sommaire d'apport. Et ça, c'est approuvé mot à mot. Alors, c'est évidemment un petit peu difficile. On s'est évidemment couché le dernier jour à 3h du matin pour terminer. Mais néanmoins, on est arrivé à trouver quelque chose qui soit un compromis, sachant que la session est présidée par des scientifiques et que quand il y a une proposition de modification qui est faite, le premier réflexe est de se tourner vers les gens qui ont écrit la partie correspondante du rapport en leur disant est-ce que ça c'est bien correct, est-ce qu'on peut bien écrire ça, c'est bien conforme à la science. Et si les gens qui sont là disent, il y en a deux ou trois en général, ils disent non, écoutez, ça on peut pas dire ça parce que ça, non, non, mais par contre, si vous voulez aller dans cette direction-là, on pourrait peut-être dire que ce qui serait peut-être plus facile à comprendre, etc. Donc voilà quels sont les éléments qui sont sur la table. Alors, à la suite de ça, eh bien, il reste effectivement à l'humanité à trouver qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'atténuer l'ampleur du réchauffement climatique. Alors, avec une difficulté qui est une difficulté majeure, c'est que tout ça, c'est des phénomènes qui vont se produire à l'échelle de quelques dizaines d'années. C'est vers la fin du siècle qu'on risque d'avoir véritablement des accidents qui sont des accidents substantiels, qui risquent d'être source de crise, etc. Et chacun peut dire, ils se débrouilleront, ils verront bien. Donc là, il y a une discussion internationale. Vous avez suivi plus ou moins les pérégrinations de l'accord de Kyoto. Alors Kyoto, c'était simplement l'une des réunions de la conférence annuelle des parties à la convention de Rio sur le réchauffement climatique avec son fameux article 2 limité à des valeurs non dangereuses que j'évoquais tout à l'heure. Mais le protocole de Kyoto a été le premier pas dans la bonne direction. Alors, il faut bien se rendre compte que le protocole de Kyoto était valable pour 5 ans, pour des pays seulement. Donc, c'était quelque chose qui était complètement dérisoire par rapport à l'ampleur du problème. Mais le collègue néerlandais qui préside le groupe 3 sur la mitigation dit volontiers que le protocole de Kyoto est à la solution du problème posé à l'humanité par le réchauffement climatique, ce que le premier pas d'un bébé peut être à la participation aux Jeux Olympiques. Alors, c'est dérisoire, mais c'est tout aussi indispensable. C'est-à-dire que si on n'a pas commencé à savoir ce qu'on pouvait faire pour essayer de réduire les émissions, on n'a aucune chance d'y arriver. Et donc, à l'heure actuelle, sur le plan international, on a une discussion qui s'engage pour savoir qu'est-ce qu'on fait après Kyoto. Alors, le simple fait que Kyoto pose la question de l'après-Kyoto est déjà quelque chose qui est en soi. Et puis, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été développés à l'occasion du protocole de Kyoto, dont il faut savoir comment on va les utiliser à l'avenir. Mais là encore, on retrouve ce que disait M. Breuer tout à l'heure, c'est-à-dire, et ce qu'exprime peut-être un peu de la même façon en d'autres termes quelqu'un comme Jean-Pierre Dupuis, qui a écrit pour un catastrophisme éclairé, finalement on sait mais on ne croit pas à ce risque, et pour des tas de raisons, les gens disent bah oui c'est vrai, tous les scientifiques sont d'accord pour le dire, c'est bien ça, mais finalement ils n'ont pas véritablement intégré et ils ne réalisent pas à quel point il peut y avoir des perturbations graves du monde si on ne fait pas en sorte de limiter ce foutu réchauffement climatique à des valeurs qui ne soient pas par trop catastrophiques pour l'espèce humaine. Alors, on dit parfois la Terre est en danger, c'est de la foutaise, la thèse elle s'en fout complètement. La Terre, elle a survécu à des choses bien plus graves que ça. Ce qui est en danger, c'est l'espèce humaine. Enfin, je veux dire, c'est la stabilité de notre monde géopolitique qui risque d'être effectivement complètement perturbée par ces changements climatiques. Bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous ai fait une présentation qui, j'espère, vous a pas trop ennuyé, bien qu'elle soit un peu éloignée, sans doute, de vos sujets de préoccupation habituels.